marche du monde.
I'm looking for my great-grandfather's skull. That means that his body can be somewhere here, but the skull is not here.
Je cherche le crâne de mon arrière-arrière-grand-père, ce qui veut dire que son squelette est peut-être ici, quelque part. Mais son crâne n'est pas là.
You know that they have done whatever they wanted to do with our people.
Tout, ils ont tout fait avec les corps de nos ancêtres. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire voici le corps de Timotheus Sniffer.
I can give you a skull, show you also a photo.
Je peux aussi vous montrer une photo où je tiens un crâne dans ma main. Mais toute la question est de savoir à qui appartient ce crâne.
La voix de Ida Hoffmann dans La Marche du Monde. Ida est une arrière-arrière-petite-fille de Nama. Son ancêtre a été exterminé par les Allemands en 1904, ici, en Namibie, ex-colonie allemande de 1884 à 1915. Au nom de la guerre raciale, 80 000 Herero et 20 000 Nama ont subi la terreur allemande. D'abord parqués dans des réserves, puis assassinés massivement suite à leur insurrection, les Africains ont ensuite été internés en camps de concentration. L'Allemagne a mis un siècle à reconnaître ce que la justice internationale qualifie de crime de génocide. Et bien que le gouvernement allemand ait présenté ses excuses officielles aux descendants des victimes, la question de la restitution des crânes de leurs ancêtres est plus que jamais d'actualité.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Et pour nous éclairer sur le sort subi par les Nama et les Herero au début du XXe siècle, je reçois Joël Kotek. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex depuis Bruxelles, où vous êtes politologue et spécialiste de l'histoire des génocides. Alors, on a entendu Ida Hoffmann réclamer le crâne de son arrière-arrière-grand-père. Est-ce que cette année 2014, 110 ans après le génocide de ses ancêtres, Ida Hoffmann a une chance d'être entendue par le gouvernement allemand ?
Alors tout dépend ce qu'on entend par entendu. Ce qui est certain, c'est que les autorités allemandes font leur possible pour rapatrier les cadavres qui avaient servi pour des expériences absurdes destinées à démontrer la supériorité du peuple allemand ou que sais-je d'autre de la race soi-disant germanique. Mais d'un autre côté, il est certain qu'elle ne retrouvera pas ni le crâne ni le corps de son ancêtre, dans la mesure où précisément les Herero n'étaient plus des êtres humains. C'était simplement du matériel à utiliser par ces savants fous.
Alors Joël Kotek, je vous remercie de nous accompagner. Je vous propose de découvrir avec nos auditeurs les témoignages recueillis en Namibie par notre reporter Cécile Leclerc. Et tout d'abord celui de Ida Hoffmann. Donc Ida a les cheveux courts et porte les jupes longues des Nama. À 66 ans, elle dirige toujours la World Crèche, le jardin d'enfants qu'elle a fondé après l'indépendance de son pays. Et nous la rencontrons dans le quartier de Katutura, un des bidonvilles de Windhoek, la capitale de la Namibie depuis 1990.
My grandparents was Timotheus Sniffer. And my grandmother was Lena Hoffmann.
Timotheus Niva et Lena Hoffmann étaient mes grands-parents. Évidemment, ils ont parlé du génocide, mais vous savez bien que le système nous opprimait. Nous n'avions pas le droit de nous exprimer dans notre propre langue. D'abord, nous avons dû parler allemand, et puis ensuite l'afrikaans. Mais nous n'avons pas oublié le Nama, notre langue. Même si on ne la maîtrise plus aussi bien qu'avant, nous parlons notre langue.
We can speak, we can preach, we can pray, we have also the hymn book.
Nous pouvons parler, nous pouvons prêcher, nous pouvons prier et nous aimons aussi chanter en Nama dans nos églises.
Do you want me to sing a song? Yeah. Oh yes. Tauta ha sankuhutara muraike rakabusen satihi murahati. It's a karopti tam ei hakei.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Je suis fatiguée. Je veux dormir, fermer les yeux. Parce que mes yeux sont fatigués, je veux m'allonger sur mon lit.
So that I can have a rest.
Et me reposer.
This is one of our hymn book songs.
C'est une chanson de notre hymn book song.
One of the songs that we was.
Je peux aussi chanter une autre chanson que j'ai apprise très jeune.
And that was, it goes like, Ti mama sadake kaiser mukau. Ti mama sadake kaiser mukau. Chuku chuku tista nyukuni sarami. Chuku chuku tista nyukuni sarami. That means I want to see my mother. I want to see my mother.
Ça veut dire, je veux voir ma mère, elle est partie, elle va revenir avec un train.
A train who say chuku chuku chuku, a black train.
Un train noir. Mm.
Those are, you know, that our traditional songs.
Voilà, ce sont nos chansons traditionnelles.
Des chansons conservées dans le précieux hymn book, le recueil des chants traditionnels des Nama. Des chants vecteurs de la culture et de la mémoire chez les Nama et aussi chez les Herero, comme l'évoque Esther. Esther Muyange, présidente de la fondation Ova Herero et Ovan Banderu Genocide, elle nous ouvre la porte de sa maison dans le quartier pavillonnaire de Windhoek.
What I can remember about singing is that when the Hereros fled.
Ce dont je me souviens à propos des chansons, c'est qu'au moment où les Herero ont fui dans les pays voisins, en Afrique du Sud ou au Botswana, ils étaient opprimés dans ces pays-là et ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. Ils ont donc commencé à chanter pour se transmettre leur histoire. Mais aujourd'hui, les Herero d'Afrique du Sud ne parlent plus Herero. Ils ont perdu leur culture, mais ils savent qu'ils viennent de Namibie.
Chanter pour ne pas oublier, chanter pour retrouver la mémoire, celle d'une enfance discriminée dans un pays passé sous la domination de l'Afrique du Sud et de son régime d'apartheid, après avoir subi la colonisation allemande.
J'ai grandi dans une famille très pauvre. Je n'ai même pas pu terminer mon école primaire. Ma tante ne pouvait même pas me payer une jupe culotte pour mon uniforme. Je me souviens, quand on faisait nos exercices, on devait s'accroupir. Un garçon était derrière moi et j'avais plein de trous dans mon pantalon. Et je ne pouvais même pas en parler à mon instituteur. C'était un homme. J'ai donc décidé de quitter l'école et d'aller travailler au champ. Ma mère était morte, mon père était mort, ma tante qui m'avait élevée jusqu'à l'âge de 14 ans s'était exilée. J'étais comme une balle qu'on envoyait dans une direction et puis dans une autre, chez une tante, puis chez l'autre.
Vous rejoignez pour la plupart d'entre vous le premier réseau de RFI, c'est le journal L'Afrique Midi que présente Christophe Boisbouzé.
Bonjour à tous, il était 0h18 ce matin à Windhoek quand le drapeau namibien a été hissé au mât du grand stade de la ville. Voilà, c'est dans cette immense clameur que les couleurs namibiennes flottent enfin sur Windhoek. À cet instant précis, la Namibie accède à l'indépendance.
Nous sommes le 21 mars 1990. Christophe Boisbouvier annonce l'indépendance de la Namibie sur RFI.
Alors, Pascal Chollet, vous avez vécu ce moment d'histoire. Vous êtes en direct avec nous. Racontez-nous comment s'est passée la passation des pouvoirs entre l'Afrique du Sud et la nouvelle Namibie indépendante.
C'est en fait donc à minuit 18 que la Namibie est officiellement devenue indépendante. Le drapeau sud-africain a été descendu sous les hurlements de la foule qui criait ainsi un petit peu revanche pour les années d'occupation et le conflit qui a laissé de nombreuses victimes. Pendant que les couleurs sud-africaines disparaissaient à jamais du sol namibien, le président sud-africain, Frédéric de Klerk, portait sa main droite sur son cœur. Frédéric de Klerk qui, dans un discours bref mais fort, a souhaité bonne chance aux Namibiens, leur confiant qu'il avait de l'espoir en l'avenir de la Namibie. Un discours qui a quand même été
And from there, something grows in me.
C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un besoin profond. Il fallait que je fasse quelque chose de moi. Il fallait que je devienne quelqu'un. Et heureusement, en 1992, j'ai enfin pu parler de ce qui nous est arrivé. Avant, c'était la lutte pour la libération et il n'y avait pas d'espace où contester les Allemands et les Africains du Sud. C'était la guerre à ce moment-là. Mais en 1992, les choses ont changé. Et aujourd'hui, je peux vous raconter mon histoire.
The Germans have was intruders who have come into our country.
Les Allemands sont venus dans notre pays pour voler nos terres. Nos terres, Hereros et Namas. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos richesses et ils ont assassiné notre peuple.
Et votre ancêtre, Timotheus Niva, il se bat aussi pendant la guerre qui dure plusieurs mois.
Oui, il s'est battu contre les Allemands et il est mort. J'essaie d'ailleurs de savoir si son crâne également est en Allemagne. On ne sait pas ce qui s'est passé avec son corps. Il était commandant, il était le capitaine en chef de Abraham Christian.
Et comment votre ancêtre Timotheus Niva est-il mort ?
Il est mort lors d'une bataille.
Vous écoutez RFI.
La marche du monde est en Namibie à la rencontre des descendants des Nama et des Hereros, victimes du génocide perpétré par l'Empire allemand sur leurs ancêtres. Et nous sommes avec vous, Joël Kotek, en duplex depuis Bruxelles, où vous enseignez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour quelles raisons les Allemands veulent éradiquer les peuples noirs de leur colonie du sud-ouest africain, parce qu'ils viennent pour s'installer, pour coloniser une terre, mais pourquoi cela s'accompagne-t-il d'une éradication du peuple noir?
Alors ça tient à plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, c'est que l'Allemagne entre tard dans la compétition impérialiste, c'est-à-dire qu'elle s'implante vers la fin du 19e siècle dans un continent qui est déjà largement partagé entre Français et Britanniques, et Belges et Portugais. Et donc il lui reste quelques terres encore, et notamment la Namibie, qui va devenir le sud-ouest africain. Alors ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est qu'ils y implantent des colons qui vont très rapidement lorgner sur des terres pour pouvoir les utiliser et donc bien sûr à vouloir en chasser les populations qui y résident et notamment les Hereros qui sont des pasteurs. Et donc vraisemblablement l'objectif de l'Empire allemand est de transformer la Namibie en colonie de peuplement blanche à l'égal de ce que les Britanniques font notamment en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément tient sans doute aussi peut-être à une certaine conception proprement allemande qu'on appelle la pensée idéologique völkisch,
oui,
qui fait qu'à l'époque on considère qu'il y a des peuples qui ne méritent peut-être pas forcément de vivre sur la terre et donc qui va transformer en quelque sorte un conflit de type colonial en guerre raciale.
Et ça veut dire aussi que donc ces peuples noirs, notamment les Hereros, ces pasteurs qui occupent des terres qui sont convoitées par les Allemands et donc qui sont confisquées par les Allemands en quelque sorte, hein, des terres où les fermiers
fait.
S'installent, vont tout de même se révolter.
Oui, c'est ça. Alors, dans un premier temps, la solution est un peu la solution qu'avaient pratiquée les États-Unis, c'est-à-dire de parquer dans des réserves les populations indigènes, et les Hereros le refusent assez rapidement. Et donc, en janvier 1904, il y a une révolte, mais une toute petite révolte, qui voit 123 colons, mais pas leurs épouses, et pas les prêtres, et pas les Britanniques assassinés, enfin, dans des échauffourées. Et compte tenu, justement, et précisément, je dirais peut-être, de cette pensée allemande, eh bien, le commandement allemand et les responsables coloniaux allemands vont profiter de cette petite révolte, en quelque sorte, pour terminer avec un problème qui est celui de la population indigène de Namibie. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire venir sur le terrain un général qui est connu justement pour ne pas faire de quartier avec la population indigène, et c'est le général Von Trotta qui s'est illustré notamment dans des conflits coloniaux de l'autre côté de l'Afrique, dans la colonie du Tanganyika.
Et aujourd'hui, en Namibie, les descendants des Hereros et des Nama cohabitent avec les descendants des colons allemands. Ils sont d'ailleurs peu nombreux à accepter de s'exprimer sur le sujet. Écoutez, Joachim, à 34 ans, il a repris la librairie de son père. Nous sommes toujours à Windhoek, dans la capitale namibienne. Joachim répond aux questions de Cécile Leclerc.
Also, meine Urgroßvater, Gesinde, ist damals der erste gewesen, der hier nach Namibia ausgewandert ist.
Mon arrière-grand-père, Gesinde, est le premier à être resté, comme beaucoup d'Allemands qui avaient envie d'aventure à l'époque. Ils ont monté des fermes ou des magasins. Et puis les enfants de Gesinde sont nés ici. Et puis nous en sommes à la quatrième génération.
Savez-vous si Gesinde avait parlé des camps de concentration ? Parce qu'en 1907, lorsqu'il arrive dans le sud-ouest africain, il existe encore plusieurs camps de concentration.
Meine Großmutter war schon fast 40, wo mein Vater geboren ist.
Je ne l'ai pas connu. Ma grand-mère avait déjà presque 40 ans quand mon père est né. Donc, je n'ai pas connu mon arrière-grand-père.
Großeltern habe ich witzigerweise nie so groß darüber gesprochen. Also die haben auch nie.
Et je n'ai jamais parlé du sujet avec mes grands-parents.
Es war vielleicht ein bisschen tabu.
Peut-être que c'était un peu tabou.
Vielleicht standen auch hier ganz konkret andere Sachen im Vordergrund. Ich meine, wo meine bis vor 24 Jahren.
Mais c'est aussi dû à la guerre. Il y a 25 ans, c'était encore la guerre ici. La guerre de libération. Une guerre plus réelle que cette guerre contre les Herero qui appartient au passé.
Si je comprends bien, votre arrière-grand-père Gusinde reste après la Première Guerre mondiale en tant que fermier.
Ja, genau, genau. Er war Farmbesitzer und hat dann eben irgendwann an seine Kinder weitergegeben.
Oui, il est resté. Il était propriétaire de ferme. Il a transmis les terres à ses enfants.
Das wäre dann schon im Hereroland gewesen.
Ces fermes étaient situées dans l'Hereroland. La question que je me pose, il est quand même venu après la guerre. Donc, je pense qu'il a acheté la terre à un colon qui était déjà là.
Sich Neuland einfach gesucht und das annektiert.
Et les premiers colons, c'est vrai, ont annexé des terres.
Deswegen, es wäre interessant,
c'est pour ça que ça aurait été intéressant de parler avec mon arrière-grand-père.
Aber in der eigenen Familie ist natürlich noch mal
j'aurais aimé en savoir plus sur ma propre famille.
Si Joachim ne sait pas du tout ce que son grand-père, en tant que colon allemand, pouvait penser du traitement réservé aux Herero, Esther, au contraire, imagine très bien comment ses grands-parents Herero voyaient les Allemands.
I think in those days, our grandparents were also upholding the Germans.
Je pense qu'à l'époque, nos grands-parents respectaient les Allemands.
Because I remember the grandparents used to say.
Je me souviens, mes grands-parents, lorsqu'ils nous demandaient de faire quelque chose et qu'on le faisait bien, pour nous féliciter, ils nous disaient : c'est bien, bravo. Quand tu seras grande, on fera en sorte que tu te maries avec un Allemand.
That was how the mind functioned.
C'était leur façon de penser.
Grew up,
mais quand tu grandis, tu commences à réfléchir à tout ça, à ce que tes grands-parents disaient. Et en tant qu'adulte, tu comprends que c'est un effet pervers de la colonisation qui endoctrine l'esprit des gens, puisque tu finis par porter au nu celui qui t'oppresse.
So that time I didn't feel anything at all, but today, you know, it's something that creates anger in me.
Et aujourd'hui, tout cela fait que j'ai de la colère et du ressentiment en moi.
Well, I have German friends as individuals, but in general,
j'ai quelques amis allemands et je n'ai rien contre les Allemands en tant qu'individu. Mais je suis très négative et hostile envers le gouvernement allemand.
Un siècle après l'extermination des Herero et des Nama, la Marche du Monde est en Namibie à la rencontre des descendants du premier génocide du siècle. C'est ainsi que notre invité Joël Kotek, politologue, le qualifie. Joël Kotek, ce ne serait donc pas le génocide des Arméniens qui serait le premier génocide du XXe siècle ?
Oui, certainement. Dans la mesure où ce qui caractérise un génocide, c'est le fait qu'il y ait une décision. Un basculement, et nous l'avons ce basculement, puisque le 2 octobre 1904, nous avons von Trotta, donc le généralissime des troupes d'occupation et des troupes coloniales allemandes, qui promulgue un Vernichtungsbefehl, un ordre d'extermination, c'est-à-dire cette décision de faire disparaître un peuple jugé de trop sur terre, hommes, femmes, enfants, vieillards, et qui explique la disparition du peuple Herero. Le peuple Herero comptait pour 40% la population totale de la Namibie en 1904. Il est aujourd'hui portion congrue, puisque les Herero constitueraient tout au plus de 7 à 8%. Donc il y a bien là un génocide.
Merci Joël Kotek, restez avec nous. Nous repartons en Namibie, juste après les infos, sur RFI.
Mais on va le faire.